Caroline a raconté hier une histoire étrange, ou un rêve, le sien ou celui d'une amie, ou celui de la langue elle-même, qui laisse si souvent filer entre ses doigts, sans perdre la main, d'incidence en incidence, de décadence en décadence, le fil de l'incertain. Comme il se doit, quelques-uns de ses auditeurs furent désorientés d'abord, avant de se laisser séduire, de monter dans sa barque et de dériver avec elle, entre dedans et dehors, consonnes et voyelles, errances et démonstrations. Quand elle en eut terminé, Caroline se tourna vers Jean, qui la remercia au nom de tous, pour les avoir ainsi bercés et emmenés si loin d'eux-mêmes. On se mit à bavarder, on trinqua au printemps et la bonne humeur revint. Caroline était un peu soulagée, et le grand Olivier piaffait d'impatience. Il faut dire que c'était bientôt son tour. Jean se rendit compte qu'il aurait de la peine à rassembler une fois encore autour de lui ceux qu'il s'était proposé de divertir. Il était temps peut-être de prendre un peu l'air. Il se leva et invita la petite troupe à le suivre près de la rivière, sur les rives de laquelle les oiseaux poursuivaient, dans leur langage coloré, leur entretien infini. Ils s'y rendirent tous ensemble et s'assirent, les uns à même la mousse, les autres sur les pierres qui bordent la rivière, ou sur de vieilles souches de mélèze. C'était la reverdie. Jean commença sans attendre qu'on lui fît signe.
Le récit qui suit, chère Odile, chère Alain et toi, cher Olivier, ne devrait pas, je l'espère, vous laisser indifférent. J'ose le dire, d'autant que je n'en suis que le modeste messager. Ce récit est en effet un témoignage, celui d'un homme, confiné de son plein gré dans une abbaye. J'en ai pris connaissance un peu par hasard, un après-midi de novembre, alors que je marchais seul le long du canal de Hagneck. Avant de commencer, je voudrais préciser que ce témoignage fait écho aux rêveries qu'avait déclenchées, le matin même, depuis le sommet du Schaltenrain, la vue du lac de Bienne et de l'île Saint-Pierre, sur laquelle Jean-Jacques Rousseau s'était réfugié en 1765, après avoir été chassé de moitié. Une île sur laquelle il eût préféré, écrira-t-il plus tard, qu'on l'y eût confiné l'éternité même. Le philosophe comptera les 2 mois pendant lesquels il y séjourna pour le temps le plus heureux de son existence. Les voyages ont bien changé depuis que les tablettes ont remplacé le papier et le stylo, qu'on égarait au moment même où on en avait le plus besoin. Sans compter nos smartphones qui mettent à notre disposition, où que nous soyons, les nouvelles du monde, ses divertissements, mais aussi ses trésors. J'ai fait une brève halte un peu avant le pont de Walpersville, pris quelques notes sur ma tablette, là où le canal de fuite de la centrale électrique de Kalnach se jette dans celui de Hagneck. Et parce qu'il me restait une longueur de marche, sur une digue que les oiseaux semblaient bouder et sur laquelle je ne croiserais personne, j'ai sorti mon smartphone et mes écouteurs. L'émission qui avait commencé depuis quelques minutes m'emballa. Cet homme, dont je ne me souviens ni du prénom ni du nom, racontait le séjour d'une semaine qu'il passa dans l'hôtellerie d'une abbaye, celle de Haute-Rive, qui se dresse sur la rive gauche de la Sarine. Sa voix, au grain mat un peu éteinte, semblait tantôt assujettie au silence qu'elle creusait, tantôt portée par eux. L'homme revenait, en poète plutôt qu'en philosophe, sur une aventure très ancienne qui semblait lui échapper encore, mais dont le récit qu'il en fit, hésitant, s'éclairait à mesure qu'il semblait le découvrir. Si les propos de cet homme m'enchantèrent, c'est, je crois, parce qu'ils faisaient mystérieusement écho à ce que je vivais alors, je ne puis en dire plus, sinon que je me souviens, avec une précision dont je ne m'imaginais pas capable, des trois moments ou des trois expériences qu'il évoqua et que j'ai décidé de vous rapporter. L'homme raconta en préambule les motifs de son confinement. Il s'était en effet rendu dans cette hôtellerie avec l'intention de faire le point sur la forme d'un livre dont il ne dit rien et dont il avait terminé le gros œuvre. Il souhaitait entreprendre cette réécriture loin de ses proches et de leurs sollicitations, au rythme de ces hommes discrets qui, bien avant d'en avoir l'âge, décident de se retirer du monde. Il avait espéré que le confinement auquel la congrégation obligeait ses hôtes de passage, le silence mais aussi le climat de méditation qui y régnait, favoriserait son entreprise. Mal lui en prit. Ce séjour l'en éloigna et le conduisit, dans un premier temps, à ajouter quelques notes en marge de son manuscrit, dans un second, à le reprendre de fond en comble. Il y arriva un 31 octobre et découvrit l'ambiance singulière dans laquelle baigne un monastère à la veille de la Toussaint et de la fête des morts. Il faisait beau, il y avait des géraniums en fleurs sur les rebords des fenêtres. Le frère portier l'accueillit en haut de l'escalier d'honneur du corps central du monastère. Les arabesques des garde-corps de la rampe d'escalier projetaient sur sa bure des ombres. Le frère portier lui fit signer les papiers d'usage et l'accompagna dans les combles. La chambre qu'on lui attribua donnait sur le parc. Les arbres, fraîchement plantés, dessinaient des lettres sur le pré recouvert de givre. L'homme raconta, dans la première partie de son récit, sa rencontre avec l'un des frères de l'abbaye, dont il fit la connaissance au matin du second jour, dans le verger. Celui-ci remplissait d'essence le réservoir d'une petite machine, tirée ou poussée comme une brouette, qui propulsait des gaz dans les taupinières, asphyxiant leurs habitants. Les taupes avaient en effet creusé d'innombrables galeries, causant des dégâts irrémédiables aux racines des jeunes arbres fruitiers, pommiers, poiriers, cerisiers, griotiers et pruniers que la communauté avait plantés. Ils engagèrent la conversation. Le frère taupier, qui se prénommait Pierre-Yves, lui apprit qu'il était né à Paris dans une famille d'intellectuels catholiques. Il avait étudié quelques années la littérature et la géographie avant de réorienter sa vie, fit des études de théologie et décida, au terme de celle-ci, de s'engager dans les ordres. C'est un peu par hasard qu'il s'engagea dans l'ordre des cisterciens et dans cette abbaye plutôt que dans une autre. On le chargea, dès son arrivée, de s'occuper du domaine agricole. Il s'en réjouit. C'était un vieux rêve, un rêve d'enfant. Pierre-Yves lui raconta sa stupeur lorsque, après avoir déposé sa valise le matin de son arrivée dans la cellule du monastère qu'il ne quitterait plus, il se retrouva l'après-midi au jardin à sarcler les carreaux du potager entre sexte et nonne, puis entre nonne et vêpres. Il se demanda alors, effrayé, ce que deviendrait sa vie fragmentée en de si petits morceaux. 20 ans avaient passé et rien ne s'était déroulé comme il l'avait imaginé. Pierre-Yves travaillait et priait aujourd'hui au jour le jour, sans les compter, comme si chacun d'eux contenait tous les autres. Il avançait cas un cas. Il lisait de moins en moins, affirmait que 2 phrases suffisaient à sa journée. Il préférait au livre le travail à l'extérieur, avec les chèvres, les vaches, dans les vergers, les prés. Pierre-Yves lui confia un soir que son Dieu ne ressemblait plus aujourd'hui au Dieu qui l'avait accompagné au jardin potager le premier jour. Il était devenu insaisissable, comme un papillon, et ne cessait de se métamorphoser. « Pourquoi vouloir attraper un papillon ?» demanda-t-il. Les cloches l'appelèrent à vêpres. Le jour de son départ du monastère, l'homme croisa Pierre-Yves au nord de l'église. Les travaux ne manquaient pas. Il assemblait panne, chevron et voliges contre le mur du cimetière, au crépi duquel s'accrochait l'empreinte d'une vigne vierge. Ils parlèrent un peu. Pierre-Yves lui expliqua qu'il tuilerait plus tard cet appentis, qui offrirait en été un peu d'ombre aux visiteurs. En décembre, il taillerait les haies entrecoupées de chênes et de merisiers, et ainsi, jusqu'à la fin. C'est décidément bien assez, n'est-ce pas, pour faire une vie. L'homme raconta ensuite qu'il avait dès le début scrupuleusement suivi l'organisation de la vie de la communauté. Il se rendit à l'église abbatiale lui aussi, cette fois par jour. Ce rythme modifia vite ses habitudes et ses perceptions. En dehors des 6 heures que lui laissait la nuit et pendant lesquelles il dormait, il ne disposait jamais plus de 2 ou 3 heures successives entre les services pour vaquer à ses occupations. C'était trop peu pour entreprendre les travaux d'écriture qu'il avait prévus, si bien qu'il y renonça, chassa son orgueil et se cala lui aussi sur le temps de la liturgie. Il raconta que, lui aussi, chaque jour, à 7 reprises, il sortait de l'église pour entrer dans le jour, et à 7 reprises, sortait du jour pour entrer dans la nuit. Il lui apparut très vite que l'un était impensable sans l'autre, comme un décor et les événements qui s'y déroulent, ou les piquets d'une clôture et l'espace qui les sépare, ou les vides et les pleins du paysage. Les uns et les autres faisaient voir une solidarité première, un pas de deux primitif, une porte entr'ouverte par où le dedans et le dehors s'enchevêtrent, se relancent, s'épaulent. Si les longues heures passées dans l'église constituaient pour les moines le cœur de la vie monastique, il lui sembla que les moments qui s'ouvraient entre les offices constituaient son accomplissement le plus vrai. Il se promena pour s'émerveiller de tout ce qui se présentait, le cloître, les buis, la sarine, les jeunes pommiers, les roses, les chemins, la fontaine, mais aussi l'entrée de service avec ses conteneurs, le charrou allongé sur un char, au soleil, les feuilles jaunes de l'érable, le chardonneret sur le merisier de la haie au-dessus du mur d'enceinte. La richesse du monde était à l'image du nid du pinson, fait de morceaux de laine, de lierre et de plastique. L'écrivain n'aurait jamais osé, conclut-il, espérer plus beau cadeau. Il raconta pour conclure un troisième événement, qui eut pour cadre la salle à manger des invités de l'abbaye, au premier étage du bâtiment central. Il s'y retrouvait pour les repas du matin, du midi et du soir, le directeur d'une fondation pour jeunes en difficulté, un vagabond, une étudiante en théologie, un couple de retraités, des bénévoles et lui. Il fraternisa avec eux tout au long de son séjour, sur le parvis de l'église, dans les couloirs ou en attendant l'heure des repas. Il mangeait silencieusement, c'était la règle, à l'écoute du moine qui lisait dans le grand réfectoire et dont la voix était relayée par une colonne acoustique. Pour éviter toute dissipation, les commensaux étaient invités au silence, substituant pour obtenir un morceau de pain un signe de la main au mot et à la phrase. Le jour de son arrivée, 3 lectures accompagnèrent le repas. Les 5 règles de saint Benoît sur l'excommunication, le récit du martyr de saint Quentin et un chapitre de l'ouvrage de Georges Andrès sur Grégoire Girard. Si les 2 premières lectures ne l'étonnèrent pas, la 3e le plongea dans un état de stupeur dont il ne comprit pas immédiatement la raison. Il s'agissait en l'occurrence de la biographie rédigée par un historien sur Grégoire Girard, celui qui porta l'habit des franciscains et qui, parmi tant d'autres choses, se montra très critique à l'égard de l'enseignement de son temps. Grégoire Girard milita dans la première moitié du 19e siècle pour une école ouverte à tous et résolument moderne. Il prônait un enseignement mutuel dans lequel les élèves eux-mêmes enseigneraient, le maître apportant un appoint ou un correctif à ce que la mutualité complète aurait de trop rigide. Et si Grégoire Girard vantait les avantages de la mutualité de l'enseignement, c'était parce que, dans son principe, il était un système des temps de pénurie, pénurie de personnel, pénurie de moyens, pénurie de budget, et qu'il convenait donc à son temps. La fenêtre était grande ouverte, c'était la veille de la Toussaint, et tous les convives mangeaient avec un bel appétit. Ce sont les circonstances qui entourèrent la lecture de ce texte égaré dans un monastère, venu de très loin, qui lui donnèrent dans son surgissement une force inouïe, loin des murs des écoles et des institutions de formation auxquelles il était destiné. La lecture de ce texte sur l'histoire de l'enseignement mutuel dans le canton de Fribourg continua donc les jours suivants, jusqu'à la condamnation de l'enseignement mutuel et Girard lui-même, par le Conseil d'État, sur proposition de l'évêque. Celui-ci justifiait sa demande par le fait que le mode mutuel affaiblissait l'autorité des curés, dévaluait le catéchisme, n'inculquait pas la soumission. L'homme raconta comment ce texte le remua tout au long de la semaine, et bien au-delà. « Si sa force, expliquait-il, se manifestait dans ses propositions et dans le détour que celle-ci avait pris pour se faire entendre là où on ne l'attendait pas, il la devait également au frère lecteur et à son phrasé sans complaisance. Et c'est dans ce déplacement qui n'avait rien d'un théâtre ou d'une mise en scène que ce texte parvint à faire entendre ce qu'il tenait en réserve, faisant ressurgir dans la tonalité d'un psaume une idée inouïe, ses promesses, sa beauté. Cher Odile, cher Alain et toi, cher Olivier, qu'il nous tarde d'écouter, c'est par ces mots que l'écrivain désœuvré termina le compte-rendu de son expérience à Haute-Rive. Je n'ai jamais su si le livre qu'il avait dû reprendre est paru. Qu'importe, ce que j'ai entendu m'a nourri jusqu'à aujourd'hui. Les trois expériences de cet homme demeurent étrangement vivantes dans ma mémoire, comme trois petits tableaux vivants, si différents pourtant les uns des autres, que je serais bien en peine aujourd'hui, après vous les avoir racontés, de vous dire ce qui les fait tenir ensemble, mystérieusement, comme un retable. Lorsque j'ai relevé la tête, le paysage n'avait pas changé. J'ai glissé mes écouteurs dans ma poche. Le canal roulait ses eaux à travers le grand marais. Quelques tracteurs chargeaient des betteraves. On voyait plus loin de lourdes fumées se mêler aux nuages. C'était Arberg et sa sucrerie. J'étais tout près de la ferme qu'habitait la vieille dame chez qui j'avais réservé une chambre. Elle m'accueillit avec un beau sourire, devina ma fatigue. J'ai retiré mes chaussures et me suis couché une bonne heure. J'ai pris une douche et l'ai rejointe dans la cuisine. On a mangé une soupe et une omelette. Elle m'a offert un thé qu'on a bu en silence et je suis allé me coucher.